France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et le désert avance. La lutte contre les déserts médicaux est un combat difficile qu'a pris à bras le corps un collectif de médecins. Les médecins solidaires ouvrent des centres de santé en zone rurale avec une idée toute simple. Mieux vaut demander peu à beaucoup de monde que demander beaucoup à peu de monde. Autrement dit, dans ces centres médicaux, les médecins viennent une semaine seulement, de temps en temps, et ils se passent le relais. Les carnets passent la semaine dans l'Indre, département du centre Val-de-Loire, qui est l'un des moins dotés en médecins en France. Et pour mener à bien cette mission, les médecins solidaires ont besoin de plus de soignants. Ils sont 500 aujourd'hui à se passer le relais. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Clémentine Labouré.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets.
Merci.
Vous êtes médecin généraliste, vous habitez à Paris et vous faites partie depuis le début de ce collectif Médecins Solidaires. Vous revenez d'ailleurs de l'Indre, de Reuilly, commune de 2000 habitants entre Châteauroux et Vierzon, où vous avez installé récemment un centre de santé. Qu'est-ce qui vous a plu au tout début dans cette initiative ?
Mais tout d'abord, je pense qu'en tant que médecin, on est tous assez touchés par la présence des déserts médicaux en France, de dire qu'il y a des patients qui n'ont pas accès aux soins. C'est assez bouleversant. Et donc, je trouvais cette initiative très intelligente. Le principe est très pertinent, comme ça, de demander peu à beaucoup de médecins et donc de se relayer pour essayer d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Et j'avais envie de faire partie de ce projet.
Donc, comment ça marche concrètement ? On reste une semaine ? On est logé sur place ?
Exactement. On est logé, on est défrayé pour venir. On est salarié du centre pendant une semaine. Et donc, du lundi matin au samedi midi, on consulte. C'est des consultations de médecine générale classique avec du suivi, du soin non programmé, de la pédiatrie, de la gériatrie, un peu ce qu'on fait habituellement dans nos cabinets.
Ça pose évidemment la question de la continuité des soins. Est-ce que c'est la fin des médecins de famille ?
Pas du tout. Absolument pas. C'est pas du tout la fin des médecins de famille. D'ailleurs, les deux tiers de nos médecins sont des médecins de famille. On a à peu près un tiers de médecins qui sont souvent des jeunes, en tout cas des remplaçants, qui ne sont pas encore installés. Un tiers qui sont des retraités, des jeunes retraités, donc souvent qui ont été installés toute leur vie en cabinet libéral. Et puis, on a un tiers de médecins qui sont installés déjà, souvent en structure collective, dans lesquelles ils peuvent comme ça partir une semaine, se faire relayer par un collègue ou salarié de centre de santé. Donc, pas du tout. On parle plutôt, nous, de famille de médecins. Et donc, ce n'est pas du tout la fin. C'est un modèle qui est complémentaire avec le médecin de famille dont nous sommes pour la plupart tout à fait concernés.
Est-ce que c'est parfois tout de même compliqué d'assurer un suivi pour certains patients ou patientes ?
Alors c'était un peu notre question au début par rapport aux patients et on avait aussi cette appréhension-là des patients de se dire mais comment le suivi va se faire. C'est pour ça qu'on est très vigilant à la tenue du dossier médical, donc on a des dossiers qui sont très bien tenus pour que les médecins puissent arriver à se relire les uns après les autres.
Ouais, se relire, c'est un sujet ça.
C'est un sujet, c'est pour ça qu'on est informatisé.
Très bien.
Et qu'on leur demande de vraiment être très vigilants à la tenue des dossiers. On leur laisse du temps au niveau des consultations pour qu'ils aient le temps de bien le faire. On a un temps aussi de passation entre les deux médecins le samedi midi. Quand un médecin part et que celui arrive, on se transmet les informations, on se parle des dossiers en cours et tout ça. Et puis on a les coordinatrices, féminin parce qu'on n'a que des femmes pour l'instant, qui sont elles des salariés des centres, qui sont là tout le temps et qui sont un peu le visage qui ne change jamais, ce qui peut être un peu rassurant pour les patients avec un médecin qui change chaque semaine.
Toujours sur cette question de la qualité du suivi, vous ne parlez pas de médecine dégradée, ça n'est pas de la médecine en moins bien.
Pas du tout. On a souvent eu cette question, est-ce que c'est de la médecine humanitaire ? Non, on ne parle pas du tout d'humanitaire ou de médecine dégradée. Déjà, les cabinets sont équipés comme n'importe quel cabinet de médecin. C'est des médecins qui soignent ailleurs de la même manière qu'ils soignent là-bas. Ils ont peut-être même plus de temps, au contraire, avec les patients. Pour nous, ce n'est pas du tout de la médecine dégradée. Non.
Ça offre aussi des perspectives aux médecins à la retraite qui voudraient continuer à travailler un peu, mais pas toute l'année ?
Complètement. On a donc, c'est ce que je vous disais, un tiers de nos médecins qui sont des jeunes retraités, qui viennent justement de lâcher leur exercice en cabinet et donc qui peuvent se permettre de venir comme ça plus régulièrement que des médecins autres peut-être. Sur plus de semaines par an, vraiment à leur rythme. Et donc, c'est un exercice plus souple qui leur plaît beaucoup en général.
Alors, vous le disiez, les médecins sont salariés du centre. Comment est financé le dispositif ?
Alors, par les revenus des consultations, et souvent ce qui coûte cher, c'est les ouvertures de centres qui sont en partie pris en charge par les collectivités locales.
Les locaux, souvent, sont prêtés par la mairie, gratuitement.
Tout à fait.
Est-ce que ça fait tiquer certains de vos confrères, certains médecins, ces subventions publiques qui sont accordées au collectif Médecins Solidaires ?
Je ne sais pas. Moi, j'ai pas de retour particulièrement négatif. Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, on se dit que justement, le matériel médical et les locaux sont pris en charge par la mairie, mais que si un médecin s'installe, les mairies sont plutôt contentes, en tout cas, de financer cela, parce qu'elles se disent que si un médecin s'installe, c'est exactement ce qu'elles vont financer. Et puis, c'est plutôt une chance et c'est plutôt bien accepté par les acteurs locaux. Donc non, je ne pense pas.
Le premier centre des médecins solidaires a ouvert en 2022 dans la Creuse. Combien en avez-vous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a 7 centres. On a ouvert Agen tout à fait en Creuse, Bellegarde en Creuse. Et puis après, on est sorti de la Creuse pour aller dans d'autres départements. Aujourd'hui, on en a 7.
Et l'idée, c'est de s'étendre peu à peu partout en France, c'est possible ?
L'idée, c'est d'aller partout où on a des déserts médicaux. Nous, on aimerait ne pas être nécessaire au bon fonctionnement. Mais oui, pour l'instant, l'idée, donc, c'est de s'étendre là où on aura besoin de nous. On essaye d'avoir plutôt une stratégie de développement en escargot pour que ce soit plus simple pour aller dans les endroits. Quand on a besoin de faire des déplacements professionnels par rapport aux gens qui travaillent là-dessus, c'est plus logique. Donc, c'est un peu le but. Et puis, de toute façon, c'est là où on a le plus besoin de médecins.
Donc, en escargot, au départ de la Creuse, l'idée voilà, est de s'étendre peu à peu en partant du centre de la France. Le reste du temps, Clémentine Labouré, vous êtes à Paris, vous travaillez pour SOS Médecins. Qu'est-ce qui vous fait aller à Reuilly, par exemple, dans l'Indre ? Est-ce que c'est un combat militant ou est-ce que vous y trouvez aussi un intérêt personnel ?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait d'être touché par les déserts médicaux et de cette absence d'accès aux soins par certains patients. Ça, c'est plutôt personnel. Et puis, je pense que professionnellement, c'est très intéressant pour les médecins de pouvoir y aller. On voit aussi des choses qu'on ne voit pas forcément dans notre activité. Enfin, moi, ce que je vois à Reuilly, je ne le vois pas forcément dans mon activité quotidienne. Donc, médicalement parlant, c'est intéressant. Et puis, ça permet de découvrir un autre territoire, de voir d'autres façons d'exercer. Je pense que c'est toujours assez intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour s'améliorer personnellement et professionnellement.
Et quelle différence avec les consultations dans un autre contexte ? Vous en avez remarqué certaines ?
Ben oui, malheureusement, on a des patients dans les déserts médicaux qui ne sont pas suivis, souvent qui ont abandonné en fait leur prise en charge médicale. Et donc, on retrouve parfois des pathologies qui ne sont pas prises en charge au bon moment. Et donc, on a peu de prévention, plus de curatifs. Donc, c'est intéressant, c'est triste, mais c'est intéressant. Et donc, parfois, on a des choses un petit peu plus graves, je pense, à gérer, plutôt que des gens qui sont assez bien suivis régulièrement.
Vous avez des souvenirs marquants en la matière ?
Bah oui, là, le fait de parler de ça, je pense à un patient qui était venu dans un centre de santé me voir parce qu'il s'était fait mal, plutôt quelque chose d'aigu. Et en fait, donc on s'est occupé de ce pourquoi il venait. Et puis, en discutant avec lui, je lui ai demandé un peu voilà, s'il avait des antécédents particuliers et tout ça. Et il m'a dit, bah, j'étais diabétique, mais bon, il n'y avait pas de médecin, donc j'ai arrêté mon médicament, j'ai arrêté de faire les prises de sang, j'ai arrêté tout ça. Donc je lui dis, bon, bah, on va reprendre un petit peu les choses. Et en fait, en le remettant comme ça, en lui represcrivant une prise de sang, on s'est rendu compte que le diabète était totalement déséquilibré. Et je trouve que c'est assez fort comme message parce que c'est typiquement le genre de patient qu'on voit dans ces déserts médicaux-là. Où, en fait, ils abandonnent leur suivi, ils abandonnent parce que bah, y a personne pour renouveler les ordonnances, il n'y a personne pour regarder ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment un challenge de remettre ces personnes-là dans le système de soins. Et ce patient, je sais qu'il est revenu derrière et qu'il s'est fait prendre en charge, en fait. Donc, c'est une belle réussite, je trouve.
Les retours des patients et des patientes sont plutôt positifs en général ?
Très positifs. Ils sont vraiment très contents. Alors très positifs sur le coup. On a beaucoup de patients qui sont très chaleureux avec les médecins quand on vient les soigner, qui sont très heureux qu'on soit là, très reconnaissants. Et puis on a des retours aussi aujourd'hui un petit peu plus long terme, si je puis dire, parce qu'avec Agen, qui a ouvert en 2022, on a donc...
Agen dans la Creuse, donc.
Agen dans la Creuse, ouais, le premier centre. On a des retours un petit peu plus long terme de patients qui font aux coordinatrices, aux maires de la ville et tout ça, qui sont très positifs, sont très contents qu'on se soit installés là-bas.
Est-ce que c'est une solution de long terme, d'après vous, pour lutter contre les déserts médicaux, ce collectif des médecins solidaires, ou est-ce que c'est une solution d'urgence un peu perfectible ?
Alors j'espère que ce ne sera pas une solution long terme, parce que j'espère qu'on n'aura pas à long terme des déserts médicaux. Après, je pense que là, pendant les 15 prochaines années qui nous attendent, malheureusement, la démographie médicale fait qu'on va avoir des déserts médicaux. Je pense que la force de Médecins Solidaires, c'est que c'est une initiative qui a su se mettre rapidement en place, qui se déploie assez vite. Et donc, J'espère que ça ne sera pas une solution de long terme, mais en tout cas, je pense que c'est une solution actuellement qui fonctionne bien.
Elle a le mérite aussi de s'éloigner un peu de cette question récurrente. Devrait-on obliger les médecins à aller exercer en zone rurale?
Tout à fait. Là, on leur propose autre chose, en fait. On leur propose de venir exercer dans un désert médical en diminuant les contraintes, en fait. On leur demande pas de venir s'installer pendant 30 ans à un endroit où on diminue la charge pour les médecins. On leur libère du temps pour qu'ils soient, ils aient que du médical à faire, pas d'administratif. Enfin, voilà, qu'ils soient vraiment au cœur de leur métier. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose, en fait, pour les médecins et les patients de ces endroits-là.
Vous êtes toujours à la recherche de médecins hein, pour garnir ce collectif médecins solidaires. Plutôt des généralistes ou également des spécialistes?
Alors actuellement, le dispositif ne permet pas d'accueillir des spécialistes. On a cette demande-là parce qu'on a des médecins spécialistes qui nous contactent en fait en nous disant qu'ils trouvent que le projet est intéressant et qu'ils aimeraient nous rejoindre. Actuellement, on ne peut pas les intégrer au dispositif, mais on garde leurs coordonnées parce qu'on se dit qu'on ne sait pas comment l'avenir, de quoi l'avenir sera fait. Et donc, ce serait intéressant de pouvoir peut-être les intégrer. Mais actuellement, on ne recherche que des médecins généralistes.
Qu'est-ce que vous leur dites, Clémentine Labouré, à ceux et celles qui nous écoutent, les médecins qui hésiteraient à se lancer dans votre collectif?
Rejoignez-nous. Honnêtement, c'est vraiment super. C'est une très belle aventure. On a actuellement des questionnaires de retour de médecins pour savoir après leur semaine comment ça s'est passé. Et on a plus de 99% des médecins qui nous disent qu'ils aimeraient revenir ou qu'ils sont déjà revenus. Donc les médecins sont très contents. Donc vraiment, sautez le pas, vous ne serez pas déçus.
Pour vous, c'est un peu une respiration, non? Vous qui travaillez chez SOS Médecins à Paris, on imagine une vie un peu intense. Est-ce que c'est une respiration ou c'est tout aussi intense à Reuilly dans l'Indre?
C'est tout aussi intense, mais c'est différent. C'est différent et je pense que c'est très enrichissant d'aller ailleurs, de travailler d'une manière différente. C'est toujours un peu revigorant et dynamisant de changer d'exercice.
L'ambition à terme est-elle de faire rester certaines de ces médecins sur place?
Pourquoi pas? Nous, on se dit, c'est ce qu'on se dit aussi souvent avec les maires de ces communes-là, c'est que une commune qui voit 50 médecins généralistes par an passer ici a plus de chances de voir un médecin s'installer. Et si un médecin de notre collectif a un coup de cœur pour une commune, eh ben, on sera ravis et qu'il s'installe et on ira ailleurs parce qu'on aura besoin de nous ailleurs et ce serait génial pour tout le monde.
Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé.
Ce n'est jamais arrivé, mais gardons espoir.
N'insultons pas l'avenir. Collectif Médecins Solidaires, merci beaucoup Clémentine Labouré.
Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
J'ouvre la boîte mail des carnets de campagne. Voici ce que nous écrit Delphine. Puisque vous êtes dans le 36, je voudrais vous parler de Jean-Baptiste Marceau, qui est floriculteur. Il a créé Pétale à Levroux, entre prairies et forêts. Il cultive les fleurs de saison en plein champ et sous abri non chauffé. Une diversité végétale folle, charmante et généreuse, poursuit cette auditrice. On y plante aussi des haies et on y prend soin du sol. Les fleurs sont destinées aux fleuristes de la région et à la vente directe à la ferme et au marché de Châteauroux. C'est un pied de nez à l'industrie mondiale mortifère de la fleur coupée, conclut Delphine. Pétale, fleur en Berry, c'est à Levroux, dans l'Indre. Et puis un appel au bénévolat, lancé par une autre auditrice, Estelle. L'association Bluesberry à Ambrault, dans l'Indre, organise chaque année depuis 10 ans un festival de blues dans le Berry, avec des artistes européens. Une grande partie des habitants du village et des alentours s'y investissent, de 7 à 80 ans. L'entrée du festival est à prix libre et tout le staff d'organisation se compose de bénévoles, écrit notre auditrice. De plus, et c'est notable, les deux coprésidentes, la secrétaire et la trésorière, ainsi que leurs adjointes sont toutes des femmes. Bluesberry a besoin de bénévoles pour préparer ce festival prévu cet été à Ambrault, dans l'Indre. Et je vous rappelle que le Cher est bientôt au programme des carnets. Écrivez-nous pour signaler des initiatives réjouissantes autour de Bourges. Et dans quelques semaines, c'est le Tarn-et-Garonne qui sera à l'honneur.